les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite. Voilà, Jacqueline Hirsch, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous avez choisi, dans ces rendez-vous avec Alexandra, de nous parler de son féminisme.
Oui, parce qu'Alexandra David-Nel est vraiment une féministe d'avant-garde, avec d'autres, mais quand même. Et que c'est un aspect qu'on connaît moins d'Alexandra. On connaît bien la grande exploratrice, l'orientaliste. Dans le monde entier, on connaît Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Et bien sûr, cette ville interdite aux Européens et où elle est entrée pour la première fois. On connaît aussi ces ouvrages orientalistes qui sont vraiment ceux d'une véritable scientifique. Mais ce qu'on connaît moins d'Alexandra, c'est plutôt sa vie personnelle, même si on peut la découvrir en partie avec les correspondances qui ont été publiées avec Philippe, son mari. Mais on connaît moins ses engagements de jeunesse, notamment la théosophie, l'anarchisme, la franc-maçonnerie, le journalisme aussi, et son engagement féministe. Donc c'est la toute jeune Alexandra David-Nel, parce que très tôt, enfin Alexandra David, très tôt en 1889, je rappelle qu'elle est née en 1868, et donc la veille de ses 21 ans, elle écrit dans son agenda une phrase qu'elle recopiera même plus tard, bien plus tard, dans son carnet de pensée qui a été publié dans La Lampe de Sagesse. Elle écrit, je la cite, « La loi me donne, dès demain, la libre disposition de ma personne et de ce qui m'appartient. Il y aurait honte à moi de ne pas m'émanciper et aussi de rester sous la tutelle de mes passions et de mes habitudes. » Alexandra rêve donc de liberté. Mais pour cela, pour être libre par rapport à ses parents, il lui faut gagner son indépendance financière et donc travailler. Mais là, on est donc dans cette dernière décennie du 19e siècle. Et que faire lorsqu'on est une femme? C'est une revendication qu'elle va reprendre en tant qu'anarchiste, mais surtout en tant que féministe, avoir son indépendance financière. Elle va le redire plein de fois dans toute sa vie, en fait. Donc, que faire? Se marier? Elle écrit « Profession pour femme ». Elle avait suivi des cours de chant au conservatoire de Bruxelles durant 3 années et elle avait obtenu le prix de chant théâtral français. Et donc, Alexandra va commencer une carrière artistique et devenir chanteuse lyrique. Donc, gagner sa vie, partir faire des études à Paris, ça c'est son rêve, pour pouvoir aboutir à son vrai rêve, c'est-à-dire partir et donc préparer son voyage. Alexandra est donc une jeune femme qui est engagée dans le féminisme. Elle écrit pour l'égalité homme-femme, pour l'union libre, elle est contre le mariage, pour l'accomplissement même du désir de la femme. Elle va rejoindre aussi à une époque les idées malthusianismes, parce qu'elle écrit « Ce n'est pas le nombre des individus qui est en jeu, mais leur valeur. » Et elle affirme que la maternité est l'obstacle grave qui s'oppose à l'émancipation complète de la femme. Alors c'est à travers ses carnets, ses publications, les articles de presse, ses correspondances, qu'on trouve donc de nombreux éléments qui permettent d'approcher au plus près son état d'esprit concernant le féminisme. Mais on va commencer par ce texte assez incroyable. Il faut bien se remettre à l'époque d'Alexandra, c'est-à-dire cette fin 19e ou ce tout début du 20e. L'amour, un champ de lutte. Alexandra écrit dans son carnet de 1900 un texte qui a pour titre « La femme dans l'amour et le mariage ». Et je vous en lis juste des extraits pour lui donner évidemment la parole. « Ce terrain est un champ de lutte entre les deux sexes. Les expressions familières de la langue en font foi. On dit faire une conquête, être un heureux vainqueur, se laisser vaincre, etc. Comme s'il s'agissait d'une bataille dans laquelle le mâle agresseur verrait la femelle lui céder contre son désir. Pourquoi l'axe sexuel est-il considéré comme devant répugner aux femmes qui ne s'y soumettent que par faiblesse ? Cela ne peut être que dans le cas où tel individu répugne à une telle femme, et alors cette répugnance à s'unir à lui n'est que le dégoût qu'inspire tout acte que l'on accomplit sans le désirer. Mais dans le cas contraire, il n'y a pas de défaite de la femme, mais victoire en l'accomplissement de son désir. Elle n'est pas en infériorité, en passivité, en soumission dans l'amour, elle est agissante et doit être libre comme l'homme. Alors cela pose la question, Alexandra a-t-elle été une femme amoureuse ? Moi j'y crois, sans nul doute. Alors on connaît l'existence de Jean Austen, l'importance qu'il a eue dans la vie d'Alexandra, mais il n'y a pas de correspondance entre eux puisqu'ils ont vécu ensemble en union libre. Elle a rencontré Jean Austen au club de théosophie. Et c'est lui qui va l'emmener au club anarchiste. Et puis, Jean Austen est musicien.
Oui, il est compositeur, c'est ça ?
Il est compositeur, il est pianiste. Parfois, dans les tournées qu'il va faire avec Alexandra, il est même chef d'orchestre. Mais voilà, on n'en sait pas beaucoup. On sait que c'est important parce que bien plus tard, mais vraiment des années plus tard, hein, après même son plus grand voyage, elle note encore la date où elle a rencontré Jean Austen. Alors, en revanche, les lettres avec Philippe sont évidemment très, très nombreuses. Et là, on voit bien, surtout au début, il y a de l'amour, il y a de la jalousie même, hein, ce qui peut être aussi ce qui fait partie de l'amour, les reproches. Mais tout cela est vraiment empreint de grande affection, de tendresse et même d'amour, c'est évident. Cependant, c'est son caractère, hein, son esprit d'indépendance, sa volonté de comprendre le monde et puis finalement son aventure spirituelle qui vont faire passer les sentiments amoureux au second ordre.
On va faire donc une pause musicale et vous avez choisi de nous faire écouter Juliette Gréco dans cette chanson assez provocante pour l'époque. Ça s'appelle « Déshabillez-moi » et on va l'écouter tout de suite. « Déshabillez-moi » par Juliette Gréco.
Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude. Niagara, dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Avec délicatesse, en souplesse et doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et affaire de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder. Me consommer. Me consumer. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme. Soyez l'homme. Agissez. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Et vous, déshabillez-vous.
On va maintenant évoquer les idées d'Alexandra à propos du mariage. Donc, depuis sa jeunesse, elle est contre le mariage. Alors, est-ce que c'est sa soif de liberté, ses projets personnels de voyage qu'elle a depuis toujours, depuis ses lectures lorsqu'elle était enfant, ses lectures de Jules Verne, mais aussi ses études d'orientaliste, ou bien est-ce que c'est l'exemple de ses parents dont elle dit, bon, peut-être à tort, qu'ils sont restés plus de 50 ans, je cite, en face l'un de l'autre comme deux statues aussi étrangères que le premier jour de leur rencontre, sans aucun lien d'esprit et de cœur. À mon avis, elle exagère, mais d'après les lettres entre ses parents, mais bon. Pourtant, Alexandra franchira, elle aussi, le pas du mariage en 1904, et sans doute, et c'est même certain, pour les mauvaises raisons qu'elle expose. Mais voici donc, je vais la citer, un article qu'elle a publié dans le magazine La Société Nouvelle en 1907, un article intitulé « Le mariage, profession pour femmes ». Alors, La Société Nouvelle, c'est un journal qui était publié à la fois à Paris et à Bruxelles. C'est un magazine donc international, on peut dire, le plus important de l'époque en sociologie, arts, sciences et lettres. Et le sous-titre était « Socialisme et conscience sociale ». Voilà. Donc, « Le mariage, profession pour femmes ». Et là, c'est un texte que je cite, qui est d'Alexandra Davinel. « Certains fervents de l'union libre ont tenté de stigmatiser d'un mot le mariage selon le code en l'appelant « prostitution légale ». Oh, l'épithète est sonore, déclamatoire, elle frappe, elle choque, elle enthousiasme. Mais à mon avis, la réalité est beaucoup plus banale, plus terne, sous un aspect moins dramatique, plus misérable peut-être que ne se l'imaginent les inventeurs de cette expression, la prostitution légale. Plus fortes que les chaînes de la passion sont les chaînes obscures et pesantes de la nécessité. Elle ne s'est pas mariée pour aimer ou être aimée, la jeune fiancée. Elle s'est mariée pour vivre. Et malgré les trahisons, les dégoûts, révolter le cœur saignant ou résigné, l'âme morte, elle reste mariée pour vivre. Pour vivre, c'est-à-dire pour le morceau de pain, l'humble pitance quotidienne, le feu en hiver dans le logis meilleur que la mansarde glacée où grelotte la fille seule, l'ouvrière sans appui, livrée aux maigres ressources des chétifs salaires féminins. Pour vivre, c'est-à-dire dans la petite bourgeoisie, pour l'exemption du travail salarié, pour être dame chez soi, c'est-à-dire en remontant dans l'échelle sociale pour continuer l'existence oisive dans laquelle on a été élevé. Et elle dit encore, « L'homme sait fort bien que la femme à qui la nature a donné la mauvaise part physiologiquement est aussi en mauvaise posture économiquement dans la société. Il sait qu'elle a besoin de lui pour vivre et mieux que personne, il est persuadé que le mariage est une profession et souvent la plus aisée, la plus lucrative des professions pour femmes. Mais la réciproque n'est pas vraie. Comment donc s'étonner que, suivant l'équilibre naturel, l'homme n'accorde qu'à un prix élevé cette assistance qu'on lui réclame ? Ce n'est peut-être ni très généreux ni chevaleresque, mais c'est rigoureusement logique dans un monde basé sur la lutte et l'on ne peut vraiment exiger que tous soient des héros ou des saints. Et Alexandra continue. L'union libre ne laisse pas plus de liberté que le mariage légal. Les chaînes qui lient la femme le plus étroitement ne sont pas des articles de code. On peut ruser avec la loi, la tourner en nombre de cas, mais il n'est qu'un moyen pour une mère d'apaiser les petites bouches affamées qui crient vers elle, leur donner le pain de chaque jour. Or donc, j'affirme que tant que le mariage demeurera un métier, une carrière, un gagne-pain, toutes les prétendues conquêtes féministes en matière de législation conjugale resteront lettres mortes et sans effet sensible. Et elle continue en 1907, hein, toujours. Nous sommes à une période de transition. L'organisation de la famille, comme toute organisation sociale, évolue d'une façon rapide. Demain, le mariage qui a déjà subi tant de transformations depuis les premiers âges des civilisations s'établira encore une fois sur de nouvelles bases. En attendant, et pour marcher vers ce but, c'est leur affranchissement économique que les femmes doivent poursuivre.
On va écouter « Si la photo est bonne » de Barbara.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, la pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes. À la fin, ça m'entête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Alors, on va aborder la question de l'argent, puisqu'on a parlé d'économie du mariage. L'argent est vraiment très, très important pour Alexandra. C'est un souci permanent. Et ça, elle va le garder tout au long de sa vie. D'ailleurs, elle, dans les archives, il y a les petits carnets de comptes. Elle note absolument tout. Elle compte énormément. Tout ça pour son indépendance financière, bien entendu. Donc, elle clame l'indépendance financière. Elle œuvre pour cela. Et pourtant, elle n'y parvient pas. Le métier de cantatrice est un métier très difficile, totalement aléatoire. Les ressources sont plutôt maigres. Et même parfois, et ça, elle le raconte dans son roman, le journal d'une actrice, le directeur part avec la caisse de la tournée lors de la dernière représentation. Le métier de journaliste, puisqu'elle publie beaucoup d'articles, l'est également. Ce ne sont pas les quelques articles publiés, on dirait aujourd'hui qu'elle était pigiste. Hein. Ce ne sont pas ces articles, les peu d'articles qu'elle publie dans les journaux qui vont la faire vivre. Et même lorsqu'elle devient romancière, tandis qu'elle vit à Tunis avec Philippe, mais avant leur mariage, les éditeurs refusent ces deux romans qu'elle a écrits, qui sont des romans très féministes, tous les deux. Donc évidemment, ils les jugeaient beaucoup trop féministes, beaucoup trop même, on va dire, crues, hein, parfois. Surtout écrits par une femme. Et pourtant, elle avait espéré, avec ces deux romans, qu'elle aurait des revenus conséquents qui lui permettraient, même après son mariage, hein, de réaliser son rêve, c'est-à-dire partir vers l'Orient, partir en Asie. Alors, il s'agissait bien de ce premier roman, donc Le Grand Art, le journal d'une actrice, qui a été écrit en 1900-1901. Là, elle ne vit pas à plein temps avec Philippe, elle vit à côté, mais bon, ils sont évidemment très souvent chez Philippe, qui a une très belle maison, la Mousmée, comme l'appelle Alexandra. Et donc, elle attendait merveille de cette édition. Elle écrit à Philippe, « Je ne puis m'empêcher de songer à cette affaire de mon livre et de souhaiter qu'elle se fasse. J'aurai grand besoin de gagner une somme suffisante pour mon année. » Alors, pourquoi les éditeurs refusent ? Puisqu'ils ont bien accepté, exactement à la même époque, celui de Mirbeau, le journal d'une femme de chambre. D'ailleurs, elle l'a dans les archives, il y est à la maison Alexandra, il y a cette première édition là de Mirbeau, le journal d'une femme de chambre, qu'il avait publié d'abord en feuilleton, hein, c'était très à la mode, et puis ensuite le roman en son entier. Et elle l'évoque, hein, Mirbeau, dans les lettres à Philippe. Tout simplement parce que les éditeurs, là, c'était un homme qui avait écrit cela, et donc qui pouvait se le permettre, mais qu'une femme écrive ces choses-là, pour eux, c'était pas possible. Alors, on a un peu répondu à son souhait en 2018, puisqu'on a édité pour la première fois donc, Le Grand Art, journal d'une actrice, mais bien sûr, trop tard pour Alexandra. Donc, en septembre 1906, elle est à Londres, et elle écrit ceci à Philippe alors qu'elle a besoin de vêtements chauds. Elle dit « Je ne me dissimule pas que je vais faire une grosse note à Paris, et cela me vexe. J'aurai grand besoin de gagner une somme suffisante dans mon année. Ma position est très fausse. Je n'étais pas accoutumée, ayant toujours suffi à mes besoins. » Et alors, dans cette lettre, elle écrit des lettres qui font des pages et des pages, elle philosophe sur l'argent des femmes, à partir d'une conversation qu'elle a eue auparavant avec son amie Margot, et elle exprime alors ses idées tout à fait modernes. Le rôle de la femme servante, à qui l'on dispense une à une les pièces de 20 francs, qui ne peut pas dépenser un sou sans qu'on le sache, est un triste rôle. Je crois qu'il faut lui attribuer la légèreté de tant de femmes, le peu d'intérêt qu'elles prennent aux économies communes. L'argent du mari, ce n'est pas son argent. On le dépense sans regret, on fricote comme une cuisinière sur le prix de la viande ou du beurre pour s'acheter un ruban ou un flacon d'odeur. D'autres, les moins coquettes, font une tirelire secrète, leurs économies. Et c'est là le petit capital, la formule minuscule qui leur tient à cœur. Je crois que cette dépendance et cette hypocrisie causent le malheur de plus d'un ménage. Et Alexandra continue ainsi. Je ne te dirai pas que j'approuve le système en sens inverse, où le mari doit quémander de l'argent de poche. Cela est idiot. Toutefois, il y a cette nuance que le solliciteur ayant conscience qu'après tout, l'argent est à lui et qu'il le gardera le jour où il lui plaira, il n'est pas dans une situation aussi dépendante. Ce qu'il fait, il y consent de plein gré. Malgré ça, je hais cet espionnage mutuel. Ce que l'on gagne est à soi, et l'on a le droit d'en disposer, sauf les restrictions que l'on s'est imposées à soi-même, comme d'élever des enfants. D'où il résulte que les femmes devraient elles aussi gagner de l'argent, ou bien que, comme le veulent certains réformistes, le travail ménager entraîne une rémunération. Est-il juste qu'une femme qui a fait la cuisine, lavé la vaisselle, raccommodé les hardes d'un homme, s'en aille les mains vides en cas de séparation. Alors que si elle avait fait ses travaux pour des étrangers, elle aurait touché un salaire. Et que d'autre part, l'homme qu'elle a servi ainsi aurait dépensé de ce chef, s'il avait eu recours à autrui, bien plus que l'entretien de sa femme. Évidemment, il y a là une grosse lacune à combler, surtout pour la classe besogneuse. Et Alexandra écrit ça en 1906.
Musique classique, décor floral, petit four et coupe de champagne. C'est fou ce que c'est original de se marier à la campagne. Il y a le bon et l'arrière-bon, monsieur le maire, et même un curé. Moi, si je fais une gueule d'enterrement, c'est que t'as l'air d'être le marié. C'est pas normal, y a un malaise, c'est comme une manif. Sans merguez, à ton mariage, à ton mariage. Y a une mariée, bien entendu, qui est tellement belle aujourd'hui que pour un peu, je l'aurais pas reconnue. Sans ses beaux yeux verts, brocoli, et de belles mères en beau papa, qui par ailleurs s'appelle Bernard. Tranquille, peinard, on se tutoie, c'est chou, les ex 68 tard. Quel beau samedi dominical, l'église, c'était vraiment génial. À ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage.
Y a la nouvelle femme de ton père avec sa jolie robe à frou-frou qui félicite à fond ta mère sur sa jolie robe à trou-trou. Et puis sur trois générations, y a tous les proches qu'on ne voit jamais. Y en a d'ailleurs qui sont très cons. C'est vraiment bien organisé. C'est si beau, le charme discret des grandes familles recomposées. À ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage.
Mais c'est déjà l'heure du discours, que le temps passe vite aujourd'hui. Moi qui suis douille à ton amour, j'ai le rôle de la meilleure amie. Et voilà qu'une bande d'individus me pousse à mettre une folle ambiance pour que je cause de ta mort. Vu que je suis le témoin, j'en ai de la chance. C'est trop cool que t'épouses Sandrine, c'est vraiment une super copine. À ton mariage,
à ton mariage,
ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage, c'était magique. Tu devrais le refaire plus souvent. Puis d'un point de vue sociologique, c'était vachement enrichissant. Et puis d'abord, faut pas se moquer, le mariage c'est beau comme une croix. D'ailleurs, c'est si lourd à porter qu'il faut souvent s'y mettre à trois. Remarque, tu peux compter sur moi, la jalousie je connais pas. À ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage. Je l'avais mauvaise comme dans une manif sans merguez. À ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage.
Musique classique, décor floral, l'église aussi c'était génial. À ton mariage,
à ton mariage,
à ton mariage. Sans rancune, meilleur vœu mon vieux. Le mariage c'est se mettre à deux pour affronter toutes les galères que t'aurais pas eues célibataire.
Voilà une chanson pour terminer cette première partie du féminisme d'Alexandra Davinel.
Oui, ça tombait bien, cette chanson sur le mariage où, qu'Alexandra rejette et pourtant qu'elle a aussi, elle a aussi franchi le pas. Et bien la prochaine fois, je vous parlerai de la maternité, selon Alexandra Davinel.
Merci, à bientôt Jacqueline.
À bientôt.
Au revoir.